Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Mercredi 29 juillet, 7h30, pile.
La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
Bien, et Marc Tédé, évidemment, pour le journal de 7h30, avant de revenir, évidemment, sur les ravages du Covid. Je vois qu'on démarre avec ce sombre décompte, celui des morts pour la défense de l'environnement. Ils ont été l'an dernier 212 à travers le monde à être ainsi sacrifié dans ce combat, Marc.
Oui, bilan dressé par l'ONG britannique Global Witness, alors même que le Brésil annonce une accélération de la déforestation, 20% de la forêt amazonienne dans le pays serait désormais détruite. Et parmi ces combattants de la lutte pour la défense de l'environnement, des leaders autochtones, des rangers chargés de protéger la nature ou encore des militants ordinaires, la moitié d'entre eux ont été tués en Colombie ou aux Philippines, Rémi Vallès.
Oui, là-bas, les représentants des peuples autochtones subissent un risque disproportionné de représailles, ça l'arme Global Witness. Leur crime, se battre simplement pour défendre leurs terres ancestrales contre les projets agro-industriels ou miniers. Les mines, qui sont d'ailleurs le secteur le plus meurtrier pour les défenseurs de l'environnement, avec 50 morts l'an passé sur un total, vous le disiez, de 212, un macabre record très certainement sous-évalué de l'aveu même de l'ONG. Autre secteur très meurtrier, les exploitations d'huile de palme, de sucre ou de fruits tropicaux situés en grande partie en Asie. L'Amazonie n'est pas en reste, avec une trentaine d'opposants à la déforestation tués l'année dernière, au moment où le poumon vert de la planète était rongé par les flammes. Du Brésil aux États-Unis, on assiste à une intensification des problèmes, s'indigne Global Witness, avec des gouvernements qui profitent de la crise du Covid pour revenir sur des règles environnementales durement acquises. L'ONG dénonce des manœuvres fallacieuses de leur part pour réduire au silence ceux qui se battent pour le climat et la survie de l'humanité.
Bilan funeste. Merci Rémi Vallès. 7h32. En cette période de crise sanitaire, les Français sont inquiets. Marc Tédé, plus de 4 actifs sur 10 craignent de perdre leur emploi.
Et c'est ce que révèle une étude exclusive Opinionway Radio Classique Les Échos. Les Français sont pessimistes quant à leur avenir professionnel et financier. Frédéric Michaud est directeur département opinion et politique au sein de l'Institut de sondage.
Il y a un gros tiers des actifs qui redoutent une perte d'emploi pour eux-mêmes. Alors ce sont davantage les catégories populaires, c'est-à-dire les employés ou les ouvriers qui redoutent d'être licenciés. Mais c'est aussi une peur qui est partagée par les professions intermédiaires ou par les cadres. Et puis, ce sont la tranche d'âge des 25-34 ans qui est particulièrement inquiète. Dans cette génération, qui sont souvent des jeunes embauchés, et quasiment une personne sur deux qui redoute de perdre son emploi dans les mois qui viennent.
Frédéric Michaud, directeur du département opinion et politique au sein de l'Institut de sondage Opinionway. J'ajoute que parmi les secteurs économiques les plus durement touchés par la crise, il y a le tourisme et pas qu'en France, avec une perte évaluée à 320 milliards de dollars uniquement sur les 5 premiers mois de l'année, avec une baisse d'activité de 56%, comme en témoigne par exemple le pèlerinage de la Mecque qui commence aujourd'hui avec seulement 10 000 fidèles cette fois-ci, contre 2,5 millions traditionnellement. Aux États-Unis, on a enregistré ces dernières 24 heures plus de 1 600 morts dues au Covid. C'est du jamais vu là-bas depuis le début de la crise sanitaire. En France, situation moins dramatique en ce moment, mais sous surveillance, notamment en Mayenne, où de nouveaux foyers de Covid-19 ont été identifiés. Il y en aurait une quinzaine actuellement dans le département. Le préfet interdit les rassemblements de 10 personnes. Et puis on l'apprend ce matin, les laboratoires français Sanofi et Britannique GSK annonce avoir conclu un accord avec le gouvernement britannique pour fournir 60 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, sous réserve évidemment de la signature d'un contrat définitif.
On continue le journal de Radio Classique, il est 7h34. Alors si vous envisagiez de faire un don à vos enfants, aux petits-enfants, c'est peut-être le bon moment, Marc Tédé.
Oui, car toute donation effectuée avant le 30 juin 2021 sera défiscalisée dans la limite de 100 000 euros. C'est une des mesures du budget rectificatif 2020 pour redynamiser l'activité. Mais attention, cet allègement fiscal est soumis à condition. Ce don doit être utilisé pour la création ou l'augmentation de capital d'une petite entreprise, la construction de sa résidence principale ou encore des travaux de rénovation énergétique. Émilie Vallès.
Cela va clairement faciliter le transfert de patrimoine, prédit Jean-François Humbert, président du Conseil supérieur du notariat, car donner peut coûter cher en droits fiscaux.
C'est un dispositif qui est attractif. donner 100 000 euros, comme la mesure va le permettre, conduirait à devoir payer 20 000 euros de droits de donation. Donc c'est une économie fiscale substantielle. Simplement, ça ne s'utilise qu'une fois par donateur et dans la limite de 100 000 euros. Donc si on veut faire des donations à plusieurs enfants, eh bien il faut diviser la somme de 100 000 euros.
Le secteur du bâtiment, lui, se réjouit que ce dispositif soit conditionné à la construction d'une résidence principale ou à des travaux de rénovation énergétique. Jean-Christophe Repond, président de la CAPEB, Fédération professionnelle.
Des travaux de rénovation énergétique, ça coûte relativement cher. Il est difficile pour des jeunes de se projeter sur un investissement de l'embellissement par l'isolation thermique. C'est pour ça que ce don, ça ouvre des perspectives, ça donne des possibilités aux particuliers de rejeter un peu d'argent dans l'activité du bâtiment artisanal. Donc ça nous paraît essentiel et c'est des signes assez forts.
Et pour que cela bénéficie rapidement à l'économie, le bénéficiaire du don dispose seulement de 3 mois après le transfert pour utiliser l'argent.
Voilà, précision bien utile, signée Émilie Vallès. Démantèlement en cours en ce moment d'un camp de migrants à Aubervilliers, dont on est au nord-est de Paris.
Oui, 1500 personnes qui s'étaient progressivement installées ces dernières semaines au bord du canal de Saint-Denis. L'opération a débuté peu après 6 heures ce matin. Ces migrants sont évacués vers différents centres d'hébergement et des gymnases d'Île-de-France.
L'astronaute Thomas Pesquet reprend du service.
Il s'envolera une nouvelle fois vers la Station Spatiale Internationale au printemps 2021, il décollera de Cap Canaveral en Floride à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon de SpaceX.
Et puis la disparition de Gisèle Halimi, une figure féministe. Elle avait 93 ans.
Oui, et pour Emmanuel Macron, la France perd une républicaine passionnée qui fut une grande combattante de l'émancipation des femmes. Et Gisèle Halimi a notamment participé à la lutte pour le droit à l'avortement et la criminalisation du viol. Retour sur le parcours d'une avocate militante avec Elsa Dariula.
Toute sa vie, elle aura combattu, elle aura milité, elle aura, mesdames et messieurs, défendu.
L'hommage d'un avocat à une avocate. Les mots du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti retentissaient hier à l'Assemblée nationale.
Son obsession était la justice pour tous et je devrais dire peut-être la justice pour toutes.
Gisèle Halimi, c'était effectivement 70 ans de combat féministe.
Qui nous opprime ? Cela ne veut pas dire que tous les hommes sont des oppresseurs, mais c'est le système masculin.
Un combat qu'elle a mené grâce à sa robe d'avocate. Anne-Cécile Maillefer est la présidente de la Fondation des femmes.
C'est dans des grands procès qu'elle a réussi à médiatiser, à faire en sorte que ces procès déclenchent des mouvements d'opinion. Et grâce à ces mouvements d'opinion, faire en sorte que les lois puissent passer.
Le procès de 72, d'abord, elle assure la défense de Marie-Claire, 17 ans, jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol. Gisèle Halimi ouvre la voie à la dépénalisation de l'avortement. Et puis, 5 ans plus tard, en 78, elle défend un couple de femmes violées par 3 hommes. C'est un pas de plus vers l'adoption d'une loi qui reconnaît que le viol est un crime. Gisèle Halimi, c'était aussi une militante pour l'indépendance de l'Algérie, une députée, une écrivaine, une farouche liberté. Son dernier livre sortira en septembre.
Voilà, hommage à Gisèle Halimi, puis amitié à son fils, notre ami Emmanuel Faux. Merci Marc Tédé, à tout à l'heure pour un prochain journal. Il est 7h38, bonne matinée à tous. On est sur Radio Classique, évidemment, jusqu'à 9h, la matinale. C'est Bernard Poirette qui prendra la suite à 8h. Notez son invité tout à l'heure. À 8h15, le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Dans un instant, les spécialistes de l'économie. Tiens, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que ça sur la situation économique du pays, sur votre emploi, votre épargne? On va revenir sur le sondage Radio Classique Opinion Well avec Agnès Verdier-Molinier, avec Bertrand Martineau. Et puis les GAFA, vous savez, Apple, Facebook, etc. Sommet de s'expliquer aujourd'hui sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Est-ce que ces GAFA ont des raisons d'être inquiets de leur audition tout à l'heure devant le Congrès? Rendez-vous avec David Baroud, juste avant 8h sur Radio Classique. À tout de suite.